Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Donald Trump secoue les relations internationales. Retrait de l'accord de Paris sur le climat, non-certification de l'accord sur le nucléaire iranien, retrait du partenariat transpacifique, vive critique contre les règles de l'Organisation mondiale du commerce, diatribe fort peu diplomatique aux Nations Unies. Le président américain met en application son slogan « America first », l'Amérique d'abord, et tourne ostensiblement le dos au multilatéralisme. Donald Trump est-il en train de le vider de sa substance ou au contraire, le leadership américain est-il à reprendre et par qui? C'est la question du jour.
RFI.
Et ça fait beaucoup de questions et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints ce soir. Avec nous en studio, Guillaume Devin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po Paris, chercheur au CERI, le Centre de Recherches Internationales, et auteur du livre « Les organisations internationales » aux éditions Armand Collin. Et par téléphone, Pierre Grosser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, membre du Centre d'Histoire de Sciences Po et auteur du livre « L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle », c'est aux éditions Odile Jacob. Depuis 11 mois et sa prise de fonction, Donald Trump prend des initiatives sans concertation apparente avec ses homologues internationaux. On aurait pu également ajouter à la liste que je viens de dresser là, le retrait de l'UNESCO ou encore plus récemment la décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Cela s'apparente presque à une politique de retrait systématique de tout cadre multilatéral international dans un monde pourtant de plus en plus interdépendant. Est-ce que ça vous surprend, Guillaume Devin ? Est-ce que l'ampleur de ce renversement vous surprend ?
Bah, l'ampleur est surprenante, mais il faut réinscrire ça dans le temps un peu plus long. Les États-Unis ont toujours entretenu avec le multilatéralisme une relation ambivalente, pour au moins trois raisons. D'abord, l'exceptionnalisme américain, la nation indispensable, comme disait Bill Clinton.
Presque le peuple élu, quelque part.
Ce qui implique à la fois une volonté de donner le modèle en exemple, mais en même temps de le protéger. Hein, c'est-à-dire d'un point de vue du conduite diplomatique, à la fois l'exportation du modèle, mais aussi sa protection pour préserver son intégrité. La deuxième raison de l'ambivalence, c'est la séparation des pouvoirs, disons l'arrangement institutionnel particulier aux États-Unis, le fait que le président a des pouvoirs qui sont partagés avec le Sénat, notamment en matière diplomatique, et cela a conduit, non pas, ça n'empêche pas le multilatéralisme, mais ça le rend plus difficile, plus fragile. Le Sénat a refusé de ratifier le traité de la Société des Nations en 1920, a refusé de ratifier le traité SALT II de limitation des armements en 1979, récemment le protocole de Kyoto, plus récemment le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Et puis la troisième raison, c'est que les États-Unis représentent des capacités de puissance exceptionnelles hein, sur quatre grands échiquiers, l'économie, la finance, la défense, la recherche, et qu'ils peuvent se permettre de jouer alternativement sur différents terrains. Pour eux, le multilatéralisme est une carte, alors que pour d'autres, comme les pays européens, nous devons jouer la carte du multilatéralisme.
Pierre Grosser, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Les Américains ont le choix quand d'autres ne l'ont pas ?
Ils ont le choix et puis surtout ils ont une tradition. C'est vrai qu'on s'est habitué maintenant à finalement cet engagement américain dans le monde et notamment dans des cadres multilatéraux, c'est-à-dire l'OTAN, les Nations Unies, etc. Mais il faut bien se rappeler que c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que dans leur histoire, ils avaient toujours refusé par exemple des alliances en temps de paix. Et le vrai tournant finalement de l'histoire américaine, c'est qu'en 1948, hein, une fameuse résolution qui s'appelle la résolution Vandenberg a autorisé à faire ces alliances en temps de paix et donc justement, à créer le traité de l'Atlantique Nord. Donc, il y a une suspicion, finalement, qu'il y ait un droit international ou qu'il y ait des obligations internationales qui aillent au-dessus de ce qui est absolument sacré pour les Américains, hein, qui est la Constitution américaine. Donc, finalement, on sort peut-être d'une période anormale dans l'histoire américaine qui aurait commencé aux alentours de 1945 et qui se terminerait en ce moment même si évidemment il ne faut pas exagérer le tournant, parce que d'abord il est réversible, c'est évident, et puis d'autre part, les Américains ne sortent pas évidemment de toutes les conventions, de tous les traités, c'est pas un repli sur la colline, comme on le dit très souvent pour les États-Unis.
Est-ce que ce retrait américain nuit au multilatéralisme? Est-ce que, de par la puissance et puis l'importance des États-Unis, le multilatéralisme se meurt de ce retrait américain, Guillaume Devin?
Alors donc, pour prolonger ce que nous venons de dire, l'un et l'autre, hein, il faut pas oublier quand même que les États-Unis se sont retirés de l'Organisation Internationale du Travail de 1977 à 1980, et les États-Unis se sont déjà retirés de l'UNESCO de 1984 à 2002. Donc, il n'y a pas une novation absolue hein, dans ces retraits.
Et ces organisations existent encore.
Ces organisations existent encore, et elles ont eu des difficultés financières, parce que quand on représente entre 20 et 25% du budget, le retrait d'un membre de cette nature entraîne une réduction des programmes, mais pour autant, ces organisations n'ont pas disparu. Alors, oui, le fait que les budgets déjà relativement limités des organisations internationales soient amputés ou réduits, cela peut effectivement avoir des conséquences sur l'importance des programmes, mais je pense que nous n'en sommes pas là, et si vous le voulez bien, on pourra peut-être revenir sur la répartition un peu des contributions financières aux Nations Unies, ou bien sur d'autres terrains importants pour la paix et la sécurité, comme sur les opérations de maintien de la paix, où on note tout de même des évolutions assez intéressantes, notamment du côté de la Chine.
Alors on va en reparler évidemment, Pierre Grosser, Donald Trump est en train de vider de sa substance et de son intérêt le cadre multilatéral par son retrait?
Non, il le vide pas. Ce qui est étonnant, c'est en fait l'évolution de la politique extérieure américaine depuis finalement la fin de la guerre froide, puisqu'on avait un président américain, Bush père, qui pensait que le monde était unipolaire et qui pratiquait le multilatéralisme. On a eu George Bush qui a pensé que le monde était unipolaire mais qui pratiquait l'unilatéralisme. On a eu Obama qui pensait que le monde était multipolaire et qui pratiquait le multilatéralisme. Et on a finalement aujourd'hui quelqu'un qui pense que le monde est multipolaire, c'est-à-dire qui reconnaît tout à fait la puissance de la Russie, de la Chine, et qui semble jouer un jeu finalement assez traditionnel de relations entre puissances, mais qui joue la carte de façon unilatérale. Et c'est finalement une configuration qu'on ne connaissait pas dans les périodes récentes et qui est évidemment tout à fait étonnante. Mais encore une fois, on ne sait pas combien de temps elle va durer.
Alors, on a commencé à en parler un petit peu, Guillaume Devin. Est-ce que Donald Trump laisse quelque part un peu la place des États-Unis? Est-ce qu'il y a une place à prendre de leader des organisations internationales?
Alors, je pense pas que la place soit à prendre de manière aussi rapide, mais on...
La nature a horreur du vide, quand même.
Oui, mais on observe tout de même, depuis quelques années, une montée en influence, une insertion plus poussée de la Chine qui joue, ou en tout cas qui veut montrer qu'elle est prête à jouer le jeu du multilatéralisme. Elle est prête à occuper sa place et toute sa place dans les enceintes multilatérales. Alors, deux indices, hein, sans rentrer trop dans le détail, mais la contribution financière de la Chine, qui aujourd'hui atteint un petit peu plus de 5%
du budget
aux Nations Unies, hein, la contribution de la Chine aux Nations Unies, au budget ordinaire des Nations Unies, qui dépasse un petit peu 5%, c'est-à-dire à la hauteur de la France et du Royaume-Uni, hein, c'est tout de même très significatif, dans la mesure où il y a 2 ou 3 ans, la contribution n'était que de 3%. Et puis...
Donc il y a une montée en puissance, a priori.
Hein, et plus significatif encore, la participation de la Chine aux opérations de maintien de la paix. Vous avez de gros bataillons, hein, les pays du Sud, l'Inde, l'Éthiopie, qui ont environ 7000 personnels sur le terrain. Bah, la Chine atteint tout de même le chiffre de 2500 aujourd'hui. Ce qui est considérable quand on pense que, par exemple, les États-Unis n'ont pratiquement pas de personnel au sol. Donc, il y a une volonté de la part de la Chine d'occuper sa place et toute sa place dans le jeu multilatéral.
Pierre Grosser, vous êtes un spécialiste de l'Asie et donc de la Chine. Est-ce que les Chinois et Xi Jinping, qui a été récemment conforté par le congrès du Parti communiste chinois, est-ce que Xi Jinping a l'intention d'aller encore plus avant dans la sphère internationale? Sur le climat, par exemple, il semble assumer un rôle de leader hein, sur l'application, la mise en œuvre de l'accord de Paris.
Oui, tout à fait. Il y a eu un certain retournement dans l'attitude de la Chine à l'égard du multilatéralisme, et notamment sur les questions commerciales et sur les questions d'environnement, à partir du moment où, pendant longtemps, le discours des Chinois, c'était de dire, ben voilà, nous sommes un pays du Sud, c'est vous qui avez pollué pendant très très longtemps, et tout ce que vous essayez de faire pour limiter finalement nos émissions de gaz à effet de serre, c'est pour nous empêcher de devenir une grande puissance économique, et donc évidemment d'être un rival. Or aujourd'hui, les problèmes d'environnement en Chine sont criants, ils en sont tout à fait conscients, et puis autre chose qui est évidemment tout à fait intéressant, c'est que évidemment à partir de cette question environnementale, ils sont en train de devenir les leaders dans les énergies propres, les énergies renouvelables. Et donc, ils voient bien qu'il y a un intérêt aussi, j'allais dire économique et commercial, à prendre un certain leadership. Et effectivement, l'année 2017 a été assez étonnante, puisque ça a commencé avec, finalement, la conférence de Davos, où on a eu Xi Jinping qui a commencé à parler de leadership, à dire que, finalement, c'était la Chine qui allait être pratiquement le leader du libre-échange, alors qu'on sait très bien que les pratiques chinoises sont quand même assez loin du libre-échange. Et donc, il y a effectivement comme un discours de, non pas de remplacer les États-Unis, mais de prendre toute la part dans un certain nombre d'instances multilatérales, et Guillaume Devin a précisé évidemment sur la question des opérations de maintien de la paix, par exemple, mais aussi sur d'autres organisations, et en même temps avec, par exemple, ce qu'on appelle la Belt and Road Initiative, c'est-à-dire ces fameuses nouvelles routes de la soie, de faire quelque chose d'un petit peu en dehors des règles traditionnelles et des organisations traditionnelles. Donc à la fois on fait de l'entrisme, à la fois on dit qu'on est le nouveau leader qui remplace l'ancien, et en même temps on essaye de créer finalement des institutions ou des organisations qui commencent à être un tout petit peu alternatives, aussi par exemple dans le cadre du BRICS, même si pour le moment on en est encore loin.
La banque d'investissement chinoise notamment. Xi Jinping, il avance également sur l'aspect unilatéral de sa politique. Je pense au dossier de la mer de Chine du Sud, la mer de Chine méridionale. Le Vietnam conteste, mais il est un peu seul. On n'ose plus vraiment résister à Xi Jinping, Guillaume Devin.
La question n'est pas de savoir si on peut résister ou pas résister, mais dans le jeu multilatéral, la coopération n'est pas contradictoire avec la promotion des intérêts nationaux. C'est ce qu'on ne comprend pas. Quand on parle de coopération internationale, on a l'impression qu'il n'y a plus d'intérêts nationaux, mais c'est une erreur. La coopération internationale, c'est un mélange de compétition, et c'est un mélange en même temps d'arrangements, de compromis, de recherche de solutions négociées.
Alors, on va passer à peut-être un autre dirigeant qui est tout puissant chez lui, qui vient de se représenter à un nouveau mandat de président, c'est Vladimir Poutine. Est-ce qu'il n'est pas, lui, quelque part, dans une dynamique comparable à celle de Donald Trump, la Russie, et lui, j'allais dire, d'abord, Guillaume Devin?
Bah, il y a un discours qui est un discours très souverainiste, qui est un discours de promotion des intérêts nationaux, mais c'est un discours là aussi qui est tout de même très prudent et qui cherche aussi à ménager les enceintes multilatérales. Alors peut-être de manière moins significative, moins manifeste et avec une montée en influence qui est plus lente que celle dont nous avons parlé concernant la Chine, mais en même temps, on voit aussi que la Russie essaye tout de même, aux Nations Unies en tout cas, et dans les institutions principales des Nations Unies, de jouer son rôle et tout son rôle.
Pierre Grosser, vous êtes surpris par l'attitude russe, qui est à la fois eh bien très offensive, très unilatérale sur la question de la Crimée, de l'Ukraine, et puis qui est quand même très présente dans les enceintes internationales, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU.
Ben, en fait, Poutine critique l'unilatéralisme passé des Américains, c'est-à-dire que pendant longtemps, les Américains, notamment à l'époque de Bush ou même de Clinton, ont dit qu'ils jouaient la carte du multilatéralisme, et donc les Russes, eux, ont eu l'impression qu'il y avait eu une manipulation du droit international, une manipulation des organisations internationales, et donc il fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire de manipuler le discours. Il essaie surtout de se présenter finalement comme les États-Unis dans les années 90, ou à la fin des années 90, comme la nation indispensable, c'est-à-dire sur pratiquement tous les dossiers, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit la Corée, que ce soit bien sûr la Syrie, l'Ukraine, j'en parle même pas, on a l'impression que la Russie est devenue la nation indispensable. Mais ce qui est assez frappant justement quand on compare avec la fin des années 90 ou le début des années 2000, c'est qu'il y avait tout un discours de la part des néoconservateurs américains ou des internationalistes libéraux qui était de dire... Ben voilà, c'est nous, notre leadership ou c'est le chaos. C'est-à-dire, il disait, ben, imaginez un monde qui ne soit pas dirigé par les Américains. Est-ce que vous voulez que ce soit dirigé par l'ONU? Alors évidemment, les Américains disaient non, pas trop. Est-ce que vous voulez que ce soit par l'Union européenne? Là, il y avait un certain nombre d'Américains qui rigolaient. Est-ce que vous voulez que ce soit par la Chine? Et là, il y avait une inquiétude très très forte. Et donc, c'est d'ailleurs un discours qu'on entend aussi un peu en France, et par exemple à l'époque de M. Fabius, avec l'idée d'un monde zéro polaire ou d'un monde apolaire. C'est qu'on a l'impression finalement que c'est les États-Unis ou le chaos, ou les États-Unis ou finalement des puissances très expansionnistes comme les Russes, les Chinois par exemple, ou les Iraniens, puisqu'évidemment beaucoup pensent que les Iraniens sont une puissance expansionniste. Et donc c'est pour ça qu'on essaye d'une certaine façon de rattraper les Américains par la manche pour qu'ils soient encore les leaders du monde occidental.
Vous avez parlé un petit peu de l'Union européenne en expliquant qu'elle faisait parfois un peu rire aux États-Unis, Pierre Grosser. Est-ce que, alors, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis, Angela Merkel, la chancelière allemande, a expliqué qu'il allait falloir ne compter que sur nous-mêmes pour les Européens. Est-ce que cette culture, on va dire, européenne du consensus, de la discussion, donne un petit avantage sur la place qu'elle prend dans le multilatéralisme?
Non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis, en raison de leur puissance, peuvent pratiquer le multilatéralisme à la carte, tandis que les puissances moyennes de l'Union européenne joue la carte du multilatéralisme, parce qu'il est indispensable.
Elles n'ont pas le choix.
Elles n'ont pas vraiment le choix. Le monde est interdépendant, les décisions doivent être prises souvent en commun. Il y a des puissances qui n'ont pas nécessairement les moyens d'appliquer les décisions seules, mais qui peuvent participer néanmoins aux décisions. Ce que je voudrais simplement ajouter en une minute, c'est que tout de même... Il faut pas oublier que l'opinion publique aux États-Unis est quand même globalement favorable aux Nations Unies. Tous les sondages qui ont été faits le confirment. Environ 60% des gens interrogés sont assez favorables au fait que les États-Unis jouent un rôle positif. Il faudra bien tout de même que Donald Trump en tienne compte d'une manière ou d'une autre. Et d'autre part... Ne serait-ce que pour garder son rang, il est difficile de déserter l'ensemble des enceintes multilatérales.
Alors, il y a un nouvel acteur qui essaye de faire sa place dans ces enceintes multilatérales, et c'était encore le cas hier près de Paris, c'est Emmanuel Macron. Il est ambitieux, il a ce sommet climat qui a eu lieu hier, ses propositions sur l'Europe. Pierre Grosser, est-ce que Emmanuel Macron peut être le leader d'une puissance moyenne, il faut quand même le dire, qui peut devenir une force d'entraînement?
Ben, c'est ce que vient de dire Guillaume Debin.
C'est du soft power.
Voilà, on n'a pas tellement le choix. Et puis, il faut bien voir que, d'une façon générale, pour l'Europe, le multilatéralisme, c'est son identité. C'est-à-dire qu'elle s'est construite, justement, sur une forme assez particulière, puisqu'il y a aussi des formes d'intégration, mais de multilatéralisme. Et finalement, pour la France, c'est aussi un discours assez classique, parce que le discours de Emmanuel Macron ressemble beaucoup au discours de Jacques Chirac, qui valorisait justement le multilatéralisme dans un monde multipolaire. La seule différence, c'est que là, il avait l'air de prendre position par rapport à des États-Unis qui avaient un poids très important, alors que là, on essaye plutôt de combler un vide de régulation et de dire qu'il faut absolument se serrer les coudes entre puissances, j'allais dire, relativement raisonnables et multilatérales, avec par exemple les Canadiens, avec aussi les Japonais, avec les Indiens, tout en ayant finalement un discours qui est assez peu critique à l'égard de la Russie, de l'Iran et de la Chine, parce que finalement, si on a un multilatéralisme qui est fortement idéologique avec finalement un discours sur la démocratie, sur les droits de l'homme, etc., eh bien on perd un certain nombre d'acteurs importants.
Merci Pierre Brosser, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous d'avoir participé au débat, merci à vous Guillaume Devin également. Prochain débat, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.